RTN Info, Émilie Charmillot.
Bonjour, victoire pour Roger Federer à New York. Le Balois a obtenu hier soir son ticket pour les huitièmes de finale de l'US Open de tennis. Il a battu le Britannique Daniel Evans en 3-7, 6-2, 6-2, 6-1. Après avoir perdu à deux reprises le premier set lors de ses deux premiers matchs de ce tournoi du Grand Chelem, Roger Federer n'a cette fois-ci laissé aucune chance à son adversaire. Il est parvenu à compiler 48 coups gagnants sur l'ensemble de la rencontre. Le Balois a affrontera demain le Belge David Goffin, récent finaliste du Masters 1000 de Cincinnati. Stanislas Wawrinka a également le sourire. Le Vaudois s'est imposé hier soir à New York en 3-7 face à Paolo Lorenzi, 6-4, 7-6, 7-6 après 2h58 de jeu. L'Italien n'a pas donné la tâche facile aux Suisses. Il a notamment mené 4-4, 0-40 au premier set. Il s'est ensuite procuré une balle d'égalisation à une manche partout dans le jeu décisif du deuxième set avant de galvauder 5 balles de break au début du troisième. Stan Wawrinka a affrontera demain le Serbe Novak Djokovic, tombeur de l'Américain Denis Kudla en 3-7, 6-3, 6-4, 6-2. On passe du tennis au VTT. Les Suisses ont fait un carton, championnat du monde au Canada dans la course des M23. Filippo Colombo a décroché la médaille d'argent derrière le Roumain Vlad Dascalu. Le Tessinois de 21 ans a lâché un peu moins de 2 secondes sur le vainqueur. Le grison Vital Albin a remporté, lui, la médaille de bronze à 2 secondes 06 de Dascalu. Environ 5000 personnes ont défilé en silence hier soir dans les rues de Moutier. Elles protestaient contre l'annulation du vote communaliste du 18 juin 2017 par le tribunal administratif bernois. Vêtus de noir et marchant derrière un cercueil, les militants ont procédé aux obsèques de la démocratie suisse. Le cortège est parti de l'hôtel de la gare pour se rendre à l'hôtel de ville où des discours ont été prononcés par le porte-parole et le directeur de campagne de Moutier, ville jurassienne. Les montagnes seront des régions vivantes en 2035. Le groupement suisse pour les régions de montagne veut faire des zones alpines et rurales des endroits attractifs. En profitant de la numérisation notamment, il entend développer leur potentiel économique, y maintenir des services de base attrayants et y promouvoir également l'activité culturelle. Ces régions de montagne doivent conserver leur population avec le soutien de la Confédération et aussi celui des villes. Christine Bouliard-Marbat, présidente du groupement.
On doit pouvoir amener les gens parce que ces endroits-là sont vivants, il y a quelque chose qui se passe. Les gens qui habitent la montagne sont heureux, ils ont de quoi vivre, ils ont de quoi être heureux et accueillir les gens qui viennent de la ville avec joie. Et c'est seulement possible quand finalement tout le monde trouve son compte. Donc les gens de la montagne doivent sentir l'appui des gens de la plaine.
Le groupement suisse pour les régions de montagne entend par ailleurs renforcer l'agriculture en montagne et réclame des mesures spécifiques, par exemple pour valoriser la laine de mouton. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est le journal de 8h. Bonne matinée.
RTN, il est 7h04. Dans quelques minutes, les jardinières seront là pour vous. Ce dernier samedi du mois d'août, s'annonce bien avec un temps ensoleillé et de fortes chaleurs au programme. Des cumulus et des foyers orageux se développeront au fil des heures. La soirée sera calme et douce. Et puis quelques averses et orages isolés seront possibles durant la nuit. Au meilleur de la journée, le mercure affichera 25 degrés à La Chaux-de-Fonds et au Locle, 27 degrés à Fleury et Dombresson, 28 degrés à Neuchâtel et 29 degrés à La Neuville, Yverdon-les-Bains et Payerne. Demain, place au mois de septembre et à l'arrivée des premiers nuages. Dès l'après-midi, le vent va souffler et le risque d'averse sera présent sur toutes les régions. Il fera au maximum entre 19 et 24 degrés. Dans quelques minutes, rendez-vous avec les jardinières et Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Vos questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et vous envoyez tout ça au 939.
RTN, l'air de jeu, tous les dimanches sur RTN, venez jouer et gagner avec Claire et Florian.
Dimanche, l'air de jeu et de la fête, puisque l'émission se déroulera en direct de la Chaux-de-Fonds à l'occasion de la braderie. Dès 10h, nous vous invitons à venir jouer avec nous sous la tente RTN Orlofolie, située à la place Espacity. Dans une ambiance festive, tentez votre chance à nos différents jeux, relevez des défis afin de remporter des cartes cadeaux. L'air de jeu à la Chaux-de-Fonds, c'est ce dimanche 1er septembre et on compte sur vous.
L'air de jeu, le dimanche 10h midi sur RTN.
RTN au cœur de l'événement. Kenji Girac, Razorlight, Collectif 13, Pascal Obispo, Amir, Giorgio, Charlie Winston, Mom et The Dire Straight Experience, Marc Lavoine, Roger Hodgson, la voix de Supertramp, Skip the Yo, Cabaleo et Jean-Jas, et Gims, ils sont tous gentils. Envoyez RTN, espace LCDG, le numéro de la soirée de votre choix et vos coordonnées complètes au 939. RTN, espace LCDG, le numéro de la soirée de votre choix et vos coordonnées complètes au 939. Et vous gagnerez peut-être vos entrées. Le Chant du Gros, les 5, 6 et 7 septembre au Noirmont. Info sur RTN.ch.
Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire.
Garage Visinant, votre agent officiel Hyundai à la Chaux-de-Fonds. Et pas seulement, profitez toujours d'un service réparation, carrosserie et peinture. Venez, comparez et testez. L'expérience fait la différence. Toutes les infos sur garagevisinant.ch. Garage Visinant, votre concessionnaire Hyundai à la Chaux-de-Fonds. Écoute RTN sur 101.7.
When you look so good, the pain in your face doesn't show.
Les jardinières de ramener leurs fraises. Nous ne sommes pas là pour vous raconter des salades pendant une heure, ni vous prendre le chou. Par contre, il n'est pas exclu qu'on se fende quand même la poire. Mais une chose est sûre, nous avons la patate. Soyez les bienvenus. Et tout d'abord, bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène. On va se lancer, et pas dans des dictons, hein, parce que t'as l'air d'être, vous avez l'air d'être en forme, mais dans une heure de jardinage. Et ce matin, pour répondre à toutes vos questions, nous accueillons Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuvre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Posez vos questions jardinage jusqu'à 8h par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites web sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
La douceur des derniers jours a fait rougir les tomates, mais j'ai lu le dicton suivant, Jean-Pierre, ce que le mois d'août ne mûrira pas, ce n'est pas septembre qu'il fera. Alors dites-nous, vrai ou faux ?
Oui, oui, non, oui. Non, alors quand même pas. Le mois de septembre, parti comme il est parti avec les températures qu'on a, va encore améliorer passablement les maturités des éléments qui sont soit récoltés dans les potagers, les fruits ou autres. Non, je pense pas. Après octobre, c'est nettement plus compliqué. Bien sûr, on aura les premiers froids qui seront présents dans ce mois de septembre et l'humidité qui arrivera. Mais non, non, il n'y a encore pas de souci. Il n'y a pas besoin de se focaliser sur le potager pour le vider d'un coup. On a encore le temps de prélever les éléments nécessaires à sa consommation personnelle. Et puis après, bien évidemment, les derniers éléments qui ne seront pas en maturité, qu'on voudra faire mûrir, et bien les prendre, les mettre en cageot, en barquette, les mettre sur une situation un peu ombragée, pas trop exposée au soleil. Et puis la maturité va encore se prolonger quelques semaines.
C'est le mois de septembre qui commence rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant au jardin ?
Alors, dans les potagers, ce qu'il y a d'important à faire, c'est effectivement toujours combattre un peu cette mauvaise herbe qui est toujours présente, bien sûr. Dans les semis, on pourrait commencer en tout cas les semis de mâche, de doucette, c'est la bonne période pour les mettre en place. On a encore un peu tôt pour mettre en place les salades d'hiver, là, les laitues, les choses comme ça. Et puis, bien sûr, dans les récoltes, ça ferait gentiment commencer de prélever les éléments intéressants qui sont à maturité.
7h, 8h, les jardinières.
Enfin, il est plutôt chez les jardinières. Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, répond à vos questions jardinage jusqu'à 8h.
Et justement, nous avons Janine au bout du fil. Bonjour Janine.
Bonjour.
Et vous avez une question pour notre jardinier ?
Oui. Alors, on a semé... J'ai mon oiseau qui fait du bruit. On a semé de la prairie, on a fait une grande plate-bande de prairie. Et puis bon, alors les fleurons sont sortis, c'est juste magnifique. Mais j'aimerais savoir ce que je dois faire pour que l'année prochaine, on ait de nouveau. Est-ce que je dois ressemer ou est-ce que ça va repousser ?
Oui, bonjour Janine. En fait, ça dépend un peu de la semence. Ça dépend un peu de la semence que vous avez utilisée. En général, les paquets de semences, vous avez l'information dessus, si c'est des prairies fleuries qui seront de longue date, soit du Swiss Flora ou des choses comme ça, ou bien il y a des prairies fleuries qui sont seulement bisannuelles, ça veut dire l'année du semis et l'année d'après, vous avez une arrivée de la première année d'annuel, alors évidemment, et puis pendant cette année de floraison avec ces fleurs annuelles, vous avez les bisannuelles qui se mettent en place pour l'année d'après. Alors là, l'information est un peu difficile à donner, étant donné que je n'ai pas le sachet à étudier, mais en tous les cas, de sûr, on est encore un petit peu tôt pour faire une fourche de nettoyage sur cette parcelle, parce que on a encore des éléments qui sont en fleurs, et puis
c'est
les...
encore plein fleuries, quoi.
Mais oui, et puis les semences ne sont encore pas tout à fait à maturité. Par contre, sur fin septembre, là, ça vaudrait la peine de faucher. Alors, le mieux, c'est de faucher avec une faux, peut-être pas la débroussailleuse, parce que ça hache énormément, et puis ça fait pas des coupes très propres pour une prairie fleurie. Donc, une faux ou une motofaucheuse, si vous avez la possibilité. Faudrait laisser cette matière végétale sur sol, je dirais 2-3 jours par temps de soleil pour que les graines qui sont encore accrochées après les pédoncules se défont. Et puis à partir de là, ramasser cet élément végétal et puis le mettre au compost en tas dans un coin du potager, je ne sais pas, c'est égal selon l'envie que vous avez envie de faire en compensation écologique, parce qu'on sait que ces tas de végétaux, c'est des refuges pour les petits animaux. Et puis là, l'année prochaine, vous devrez avoir sans trop de problème une arrivée de nouvelles fleurs.
Puis-je devrais ressemer l'année prochaine d'autres qui sont juste annuels ou bien ?
Non, alors je
pense pas. Ce serait bien ?
Non, je pense pas. Non, parce que de toute façon, un sursemis sur une prairie qui est déjà établie, c'est quasi impossible de faire démarrer la semence parce que le sol, il a été fermé, compact, et puis la semence qui se développe sur le sol n'arrive pas à raciner, puis elle va pas pérenniser dans le temps.
Non,
ouais, mais simplement une fauche cet automne, pas trop bas, ça c'est important pour ne pas aller détruire les cœurs des annuels et des bisannuels que vous avez en place. Et puis l'année prochaine, ça va redémarrer. De toute façon, c'est très bien que dans le sol, il y a un potentiel grainier déjà naturel qui est là, qui va entretenir un peu ce qui pourrait avoir un espace vide sur votre surface. Surtout ne pas mettre de l'engrais, parce qu'on sait que l'azote, c'est un élément qui est très destructeur au niveau des annuels, bisannuels, tout ce qui est de plantes à rosette. Ça va très bien pour tout ce qui est des graminées et les trèfles qu'on connaît dans l'agriculture, mais en tout cas pas dans les prairies fleuries.
Ok, D'accord. Est-ce qu'on fauche à combien? 10 cm ou plus bas?
10 cm, c'est parfait. 10 cm, c'est parfait, tout à fait. Oui.
OK.
Merci en tout cas beaucoup Janine de votre appel et salutations à l'oiseau qui nous a tenu compagnie également ce matin.
Mais oui. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous.
Merci Janine.
Revoir,
bonne journée.
Merci.
On rappelle que si vous voulez poser vos questions comme Janine, ça se passe au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez aussi l'option SMS, vous tapez jardin un espace. Votre question, vous envoyez tout ça au 939 ou via le formulaire disponible sous la page des jardinières sous l'onglet émission. Ça c'est sur nos site internet. On retrouve Jean-Pierre Ribaud juste après les Beatles.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Les jardinières qui vous accompagnent jusqu'à 8h. On attend toujours vos questions au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Et justement, on a reçu une question. Mes enfants ont sans arrêt des tiques qui viennent probablement de notre jardin, des pieds de framboisier. Comment faire pour éviter les tiques dans notre jardin? C'est une question de Yves de Tavannes.
Eh bien, bonjour Yves. C'est pas tout simple à répondre parce qu'il est pas censé avoir énormément de tiques dans un aménagement extérieur. Alors je connais pas votre propriété, je ne connais pas l'emplacement, je connais pas la proximité par rapport à des talus qui seraient herbacés ou des lisières forestières ou des choses comme ça. C'est la première fois qu'on pose ou qu'on rencontre ce genre de problème. Je dirais, c'est dommage que je vous ai pas au téléphone au contact pour savoir s'il n'est pas une lisière ou quelque chose. Mais en général, le tique, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les aménagements paysagers. Ça, je crois pas. Donc, est-ce que vous avez un talus plutôt herbacé avec des longues herbes dessus et puis peut-être des ronciers et puis peut-être une lisière forestière? Alors là, à l'évidence, le tique en raffole, se met sur les extrémités des éléments végétatifs et puis quand on y passe, il s'y colle. Si vous en avez vraiment sur les framboisiers, le mieux peut-être pour le cotronner, vous prenez un linge blanc et puis une petite perche, une petite latte. Vous accrochez votre linge après cette latte et puis vous frottez cette latte gentiment dans les pourtours de votre plantation de framboisiers. Et puis là, vous avez très vite fait d'avoir vos vues si vous avez des tiques, parce que ce tique, il va s'accrocher après ce linge blanc. Et puis si tel est le cas, après, il faut peut-être se rabattre sur un grossiste en produits phytosanitaires pour savoir s'il y a un acaricide ou quelque chose comme ça qui pourrait vous le faire périr, parce que ça fait partie des acariens. Et puis, en tout cas, on n'a jamais dû intervenir pour un problème de ce genre. Donc, conseil, c'est faire le test, savoir si vous avez vraiment des tiques dans cette plate-bande de framboisier. Si oui, savoir si vous trouverez un produit commercial dans les grandes surfaces qui pourra vous l'éradiquer. Et puis, sinon, changer de place de sport pour les enfants.
J'ai vu que les tiques, elles aimaient bien les endroits humides, hein, comme les lisières de forêt et tout. Est-ce que, par exemple, on pourrait proposer à Yves de couper très très court son gazon? Est-ce que ça pourrait aider?
Non, parce qu'il ne va pas être dans le gazon, le tique. Il va plutôt être sur des longues surfaces herbagères, des tiges, des rameaux, des branches. À hauteur de sol, de toute façon, il ne va pas arriver à s'agripper à nous. Et puis, ce n'est pas son élément, le gazon pour le tique. C'est vraiment sûr, c'est un élément qui est en hauteur. Alors, 30, 40, 50 cm, mais en tout cas pas une surface de gazon.
Donc il faudrait plutôt couper le framboisier?
Oui, mais justement, c'était pas top ça. J'ai posé tir.
Mais sinon, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Bestiole, elle est partout.
Tout à fait. À l'époque, on avait les attaques d'Aouta, ça a passablement disparu. Ça. Je ne sais pas pourquoi, les canicules peut-être fait que l'Aouta a disparu de nos contrées. On a beaucoup moins d'attaques. Par contre, le tic des attaques dans des propriétés, vraiment, on n'a jamais connu. Et puis c'est vrai que le tic, il est désagréable. Hein. Et puis, il peut propager passablement de maladies très, très désagréables. Donc, on peut peut-être conseiller de faire vacciner ses enfants, parce que le vaccin contre la maladie qui se développe là, au niveau mental, c'est peut-être mieux de la prévenir, parce que sinon on ne peut pas la guérir après, si vraiment il y a beaucoup de tiques dans la propriété. Mais je ne suis pas très sûr que ce soit dans la plate-bande de framboise qu'on trouve ces tiques, c'est vraiment le test à faire.
On garde l'œil ouvert, on vérifie sur le corps chaque soir s'il n'y a pas des tiques. Merci Jean-Pierre. On rappelle, les jardinières, c'est jusqu'à 8h, on va faire une pause musicale, suivie de la météo et de l'inforoute. On vous retrouvera juste après.
7h, 8h, les jardinières, les jardinières.
Les jardinières sont de retour et vous accompagnent jusqu'à 8h. Si des questions jardinage vous brûlent les lèvres, c'est le moment. Jean-Pierre Ribaud, fondateur de Ribaud Paysages à Queuves, répondra à toutes vos questions. en tout cas les questions jardinage.
Et puis ben, pour ça, vous composez le 09 01 70 20 20, c'est 30 centimes par minute, et vous parlerez directement avec notre professionnel ou vous envoyez un message, vous tapez jardin, un espace, votre question bien détaillée, et vous envoyez le tout par SMS au 939 ou via le formulaire internet disponible sur notre page Les Jardinières. Et là aussi, on se lâche sur les détails, on veut tout savoir.
Et sans transition, on passe à la question de Paul du Landron. Il nous dit, j'aimerais un arbre sur ma terrasse, sauf que ma terrasse est pavée. Quel arbre en pot me conseillez-vous? Si possible, un arbre avec peu d'entretien et qui supporte la chaleur. Je pars en vacances l'été et je n'aimerais pas le retrouver crevé à mon retour sur ma terrasse orientée plein sud. Ben, il est précis.
Alors c'est vrai qu'il est super précis, Paul, mais c'est vraiment très compliqué. Le mieux, c'est de ne pas mettre d'arbre du tout, je crois, parce que... Non, il faut juste comprendre
un cactus
que... Alors peut-être celui-là, mais il y a juste le problème qu'il faudra le rentrer l'hiver, parce qu'effectivement, sous nos latitudes, il ne va pas passer l'hiver. Alors, il y a des plantes qui supportent super bien le très sec, mais il n'y aura pas l'avantage de l'été, et puis aussi un avantage en hiver. Ça veut dire le plus résistant, je dirais que c'est encore l'olivier. Par contre, à l'hiver, on connaît le problème, il faut vraiment le rentrer, parce que sinon, il va faire trop froid, et puis il ne va pas passer l'hiver. Il faut savoir que les pots, c'est les endroits les pires, les plus critiques pour les végétaux, parce que sur une terrasse, déjà, il n'y a pas beaucoup d'air, il y a une masse béton qui va refléter la chaleur tout autour de ce végétal. Le pot, ben évidemment, il a une petite contenance. On peut mettre une sous-tasse, mais on sait très bien qu'on ne peut pas avoir tout constamment de l'eau dans une sous-tasse, parce que ou bien le végétal l'aura consommé, ou bien si on en continue, ben le végétal ne veut pas supporter. C'est pas tout simple la situation pour Paul de trouver une plante adaptée à sa situation. Il faudra obligatoirement avoir un arrosage qui soit quand même assez régulier. Alors moi, je lui conseillerais quand même, à l'impossible, quand même essayer un pot obligatoirement plastique, en tout cas pas terre cuite ou béton, parce que le plastique, c'est l'élément qui va être le moins consommant au niveau de l'humidité par rapport à la masse terreuse du végétal. Et puis mettre dans ce pot, alors du terreau qui est spécial bac et terrasse, il y a des terreaux qui absorbent, qui retiennent l'humidité nettement plus longtemps que d'autres, donc trouver un terreau spécial bac et terrasse. Et puis au niveau du végétal, mettre le moins cher possible pour planter son végétal, parce que je ne suis pas garanti que ça va passer. Alors, s'il est sec au retour des vacances, si c'est un truc à 15 balles, c'est pas trop grave. Si c'est un truc à 150 balles, ça va faire plus mal. Je ne peux pas répondre mieux à la question, c'est vraiment vrai. C'est les pots, les bacs, c'est vraiment du compliqué à gérer. Ou bien alors, il prend vraiment une plante comme l'olivier, mais on le sait, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment rentrer l'hiver. Je ne peux pas conseiller mieux, Paul, que tout ça.
Et je me demandais, vous parliez d'un bac en plastique. En ce moment, les gens essayent d'être contre le plastique. Et si on met quelque chose en fer?
Mais
on peut mettre un pot en fer.
La ferraille va refléter d'autant plus la température à l'intérieur.
Ah ouais, il va griller.
Oui, alors. Non, c'est vraiment complexe. Le problème du pot sur terrasse, on le connaît. La plante la moins chère possible. Et puis si elle trépasse, bien, on repasse.
Merci Jean-Pierre.
Et on continue et on enchaîne avec une question qu'on a reçue sur notre messagerie SMS au 939. C'est Chantal qui vit en bordure d'un village avec un petit jardin et elle est fan de papillons. Elle aimerait les faire venir dans son jardin. Quelle plante pourrait-elle planter pour attirer ses papillons chez elle?
Eh bien Chantal, pour que je ne m'attire pas trop d'ennemis au niveau de l'office des eaux de notre canton, je ne vais pas vous conseiller de planter le boudleia, mais à vrai dire, c'est quand même vrai que l'arbuste à papillon...
Vous n'avez rien dit du tout, on n'a rien entendu.
Alors c'est gentil, c'est celui-là qui
peut attirer. Parce qu'on n'a pas le droit de planter cette plante.
Le problème, c'est que le boudleia est une plante invasive chez nous, donc il n'est pas facilement maîtrisable. Quoique, enfin jusqu'à présent, on doit remarquer qu'on en avait quelques-unes qui s'implantaient, mais à l'hiver, le boudleia, il a tendance à geler chez nous. Si on passe notre frontière à quelques kilomètres sur France, les talus d'autoroute sont grebus de boudleia parce que là-bas, il fait moins froid automatiquement sur l'Alsace. Et puis là, c'est vraiment une plante invasive. Alors avec les échanges de température qu'on a maintenant, puis les hautes températures et puis les hivers doux qu'on passe, c'est peut-être plus conseillé de planter le boudleia. Alors je ne sais pas, une quantité de plantes annuelles, bisannuelles, des plantes à fleurs, j'ai pas de type donné vraiment qui va attirer ce papillon. Peut-être faire une petite recherche sur le net pour savoir s'il est vraiment des plantes adaptées à ça. Je ne peux pas dire mieux.
On va passer du papillon au vert. Un auditeur qui a besoin d'aide, il a trouvé des vers dans ses framboises. Que faire? Est-ce possible de les traiter ou faut-il les ouvrir une à une pour virer l'occupant? Et il précise qu'il est végétarien, donc inutile de lui dire de les manger.
Oui, je peux comprendre et je compatis. C'est souvent un acarien qui se trouve dans la framboise, mais c'est trop tard à traiter maintenant parce qu'il faut un délai de carence de 3 semaines, en tout cas, entre l'intervention chimique et puis la consommation du fruit. rien d'autre à faire que soit les trier, soit les mettre dans l'eau un quart d'heure, une demi-heure avant la consommation pour essayer de les faire sortir. Sinon, je dois dire que c'est comme la cerise, quoi. De temps en temps, ben, on sait qu'il y a le steak avec, quoi.
Non, mais puis toujours un petit morceau de viande, ça fait toujours plaisir.
Tout à fait.
Sauf si on est végétarien. Merci Jean-Pierre, on attend toujours vos questions au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou alors via SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous envoyez tout ça au 939 ou alors toujours le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h, les jardinières. 7h, 8h, les jardinières.
Et quel plaisir de vous retrouver tous les samedis entre 7h et 8h, c'est les jardinières. Et si vous avez vos questions, elles sont les bienvenues au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, ça marche aussi, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission, questions ou jardinières.
Et Angélique nous a justement envoyé un message, elle nous dit « Bonjour, j'ai comme des toiles blanches sur mes orchidées et les feuilles viennent fichues. Comment les traiter ? Merci et bonne journée. » Donc Jean-Pierre, pouvez-vous aider Angélique ?
Oui, bien sûr. Bonjour Angélique. Certainement que vous avez de l'araignée rouge sur vos orchidées. C'est un parasite qui se développe relativement facilement dans les milieux bâtis, sur les plantes d'intérieur, bien sûr. Là, il faut chercher un acaricide de nouveau dans les grandes surfaces, dans les commerces spécialisés, enfin voilà, pour intervenir sur ces orchidées. D'enlever les toiles ne va pas suffire parce que de toute façon l'araignée elle est là, elle se nourrit également de la plante, elle occasionne des dégâts sur la plante et puis automatiquement le fait que la plante elle soit affaiblie, eh bien elle va délaisser un peu les fleurs parce qu'elle ne peut pas combattre tout ce qu'elle peut, la plante elle va d'abord se sauver d'elle-même du parasite puis après entretenir ses fleurs, donc c'est vraiment lié les choses. Un acaricide dans une surface spécialisée, une vaporisation sur ces orchidées puis tout devrait passer.
On continue avec d'autres messages qu'on reçoit sur notre SMS. Il nous vient de Develier et c'est Gisèle qui nous demande si on peut consommer des tiges de rhubarbe toute l'année.
Alors, bonne question. Je crois pas. Non, la rhubarbe, elle est plutôt de préférence consommée au printemps quand elle est tendre, parce qu'après, sur le milieu de saison, elle devient plutôt très dure. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous faites un super prélèvement au printemps, quand elle est jeune, développée, et puis, à ce moment-là, vous enlevez l'ensemble des barbes restantes sur votre rhubarbe, et puis elle va se remettre à repousser, et puis là, vous pourrez faire une deuxième récolte. Mais je pense que maintenant, sur l'arrière-saison, les cannes de rhubarbe sont vraiment trop dures et puis difficiles à consommer.
Et si elles sont dures et difficiles à consommer, est-ce qu'on peut les cuire longtemps ?
Bonne question.
On pourrait faire une confiture.
Bonne question.
Alors peut-être, la gourmande qui
c'est parle. Vous, Mylène, la spécialiste des confitures.
Oui, alors effectivement, je cherchais plutôt une Angèle pour répondre.
Oh, c'est un peu sexiste comme remarque, Jean-Pierre.
Je suis désolé.
Les hommes savent aussi faire des confitures.
Oui,
et
mais moi,
les
je fais les tartes. Je fais que les tartes à la rhubarbe au printemps.
Ah, voilà. Donc, voilà, peut-être la rhubarbe, on va la laisser.
Et personnellement, je les mange, les confitures.
Ah, ben voilà. On fait une bonne équipe, tous les trois. On va parler de plantes vivaces avec une question de Mireille. Elle va déménager fin septembre et elle a plusieurs plantes vivaces qu'elle aimerait prendre avec. Comment doit-elle faire et quand les replanter dans un nouvel espace ?
Alors la vivace, c'est quelque chose qu'on peut déplacer assez facilement à partir de fin septembre. Il y a quand même quelques petites mesures à mettre en place avant le prélèvement. Le mieux, ce serait de faire un super arrosage les jours précédents, l'arrachage. Comme ça, la plante ne sera pas en souffrance. Après, ça facilitera aussi le prélèvement de la plante par motte, parce qu'il faut effectivement prendre une bonne motte pour déplacer les plantes vivaces. Et puis, la meilleure des mesures encore à prendre, c'est d'enlever l'ensemble des éléments végétaux, donc tout ce qui est en pousse, en fleurs, il faudrait les couper. Comme ça, lors du prélèvement de la plante, eh bien, le fait d'avoir sectionné un peu des racines, ça va couper l'alimentation des surfaces végétales, donc herbagères qui sont en-dessus. Et puis si on laisse ces feuilles, ces fleurs, eh bien, ça va appauvrir le plant. Par contre, si on les coupe, eh bien, automatiquement, il n'y aura plus cette alimentation nécessaire et puis la plante va redémarrer d'autant plus facilement au printemps. Et puis évidemment, une fois prélevée, replanter assez rapidement et puis un super arrosage, et puis j'ai pas trop de soucis possible pour elle. Après, il y a quelques vivaces qui sont plus difficiles à déplacer que d'autres, ce qui est surtout à rhizome, comme la pivoine ou le lys ou l'iris même. J'entends cette période, il faut vraiment un maximum de mottes, essayer de la maintenir, et puis peut-être justement cet arrosage au préalable va faciliter cette terre qui va se maintenir au niveau de la motte.
Merci Jean-Pierre, on a reçu une nouvelle question via le formulaire.
Exactement,
Raphaël.
Il nous vient de Michel du côté de Delémont qui nous demande, qui nous dit: j'ai une attaque de cochenille sur mon citronnier, j'ai déjà traité avec du paradéryl, si je l'ai dit juste. Est-ce que les citrons sont encore comestibles qu'il y a dessus, et comment traiter avec du savon noir?
Alors le paradéryl, c'est une huile minérale qui, une fois vaporisée sur le végétal, va englober la cochenille qui se trouve souvent dans une petite coque qu'on voit facilement sur le tronc. Et puis cette huile, ce qu'elle va faire, elle va simplement asphyxier le parasite qui se trouve en dessous. Alors par rapport au citron, c'est en tout cas pas un insecticide qui est systémique, ça veut dire qu'il est absorbé par la feuille, véhiculé dans la sève, et puis qui va être absorbé par exemple le puceron, qui est un insecte piqueur qui doit justement piquer le végétal pour absorber ce produit. C'est vraiment pas ça, c'est une huile minérale, donc le citron à ce niveau-là, pas de souci. Et puis au niveau savon noir, j'imagine c'est la même intervention. Je dois dire, je ne maîtrise pas trop le savon noir parce qu'on ne traite pas forcément avec ce genre de produit, nous. Alors simplement qu'il peut peut-être faire des essais pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Souvent, ce genre de parasite, il faut intervenir deux ou trois fois parce qu'il y a plusieurs générations sur le végétal. Et puis on n'arrive pas forcément à tous les prendre du même passage. Mais en tout cas, au niveau de la consommation des citrons, j'ai pas trop de soucis par rapport au paradéryl.
Alors le savon noir, c'est souvent on utilise pour les pucerons. D'accord. Plus que pour les cochenilles, il me semble que c'est pas la même
efficace. Ok, merci de l'info.
Et puis c'est écrit sur la bouteille de savon noir comment le diluer et comment l'utiliser. Enfin, en tout cas,
Hélène, je sens que vous avez triché.
Non, parce que j'ai une bouteille de savon noir à la maison et j'ai fait sur mes rosiers.
Okay.
On va retourner dans les plantes vivaces avec Christian qui possède une énorme plante de romarin et c'est carrément devenu un arbuste. Il aimerait le tailler car il pousse devant ses fenêtres. Comment faire pour ne pas le tuer?
Oui, alors le romarin, c'est quand même une plante, c'est plutôt un arbuste hein, qui se développe sur du bois, qui peut devenir grandeur du pouce et plus, quoi. La taille, il faudrait pas intervenir trop dans les vieux éléments végétaux, il faudrait rester sur de l'élément vert pour qu'on ait toujours des yeux latents qui arrivent à redémarrer suite à cette taille. Le mieux, c'est de tailler peut-être même deux fois par année, mais pas trop méchamment, parce que si vous arrivez dans du bois qui est trop vieux, eh bien ces yeux latents n'ont pas la capacité de redémarrer.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On vous rappelle, il vous reste encore quelques minutes peut-être pour nous contacter. 0 901 70 20 20, 36 centimes par minute, par SMS. Vous tapez jardin, un espace, vos questions, profitez. Notre jardinier est en grande forme en ce samedi matin et vous envoyez votre message au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site web sous l'onglet émission, questions ou jardinière.
Jean-Pierre, vous avez été avec nous durant une heure. Bah oui, l'heure tourne, il est déjà presque 8h05. En votre compagnie, on a parlé de différents sujets. On a parlé d'arbres qui ne supportent pas d'être sur des terrasses trop ensoleillées. On a parlé de plantes vivaces à déplacer. On a parlé de framboises qui contenaient des vers, enfin, etc. L'été va bientôt laisser sa place à l'automne. Mais avant de laisser la terre se reposer, si on doit la laisser se reposer, ça vous pouvez nous le dire, que peut-on faire dans nos potagers?
Cette période, on a encore pas simplement d'éléments à prélever, évidemment, qu'il faudra encaver ou autre. Et puis, ce qu'on peut faire sur le potager, c'est évidemment tenir la surface propre, enlever tous les éléments végétaux, les composter, faire votre tas dans un coin du potager humide. Et puis, les premiers semis de mâche, on a dit, on a quelques plants de salade, batavia, qui pourront gentiment se mettre en place. Les petits choux, bien sûr. On arrive quand même sur une période où il y a beaucoup plus de récoltes à faire sur le potager que des mises en place. Et puis, bien sûr, on va la reposer cette terre, mais on est encore un peu tôt pour penser à ça, parce que de un, travailler le sol maintenant, c'est très sec, c'est trop dur, et puis c'est pas nécessaire. Si vous le faites maintenant, en plus, vous allez encore avoir une forte arrivée d'herbes indésirables avant l'automne, donc il faudra retravailler encore une fois ça pour passer l'hiver. C'est plus, le temps est plutôt à la récolte et transformation des éléments du potager que de mise en place pour le moment.
Là, il fait encore très chaud aujourd'hui, selon Météo News. Demain, les températures vont déjà un peu descendre. Puis la semaine prochaine, on va perdre carrément 10 degrés. Est-ce que, par exemple, on a des, encore des courgettes, des haricots dans les jardins, des tomates? Il faut les ramasser maintenant? Ou on peut les laisser et puis ils vont encore un peu grandir?
Non, on peut encore laisser. C'est des éléments qui peuvent encore se récolter 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend un peu des premières gelées qu'on aura. Une bonne partie de ces éléments vont souffrir au premier gel, mais jusque-là, malgré la baisse de température, l'haricot, la courgette, ils vont quand même continuer de se développer.
Jean-Pierre Ribaud, merci de vous être levé si tôt. Vous êtes paysagiste à Queuvre et merci d'avoir surtout passé cette heure avec les jardinières. On vous souhaite un bon week-end.
Merci, pareil à tout le monde, merci.
La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Tom le jardinier qui fera sa rentrée chez les jardinières. D'ici là, on attend d'ores et déjà vos questions, soit via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières, c'est tout simple, vous n'aviez qu'à remplir ce formulaire, ou soit via le SMS, comme on vous l'a déjà répété, jardin, un espace, votre question, vous envoyez tout ça au 939 et puis on se fera un plaisir de les lire la semaine prochaine et puis Tom le jardinier y répondra. On vous souhaite un tout bon week-end et à samedi prochain.
Ben oui, à samedi prochain, Mylène. Merci beaucoup, au revoir.
7h, 8h, les jardinières.